Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, un président réélu dans la cohue. Emmanuel Macron à Cergy pour son premier déplacement depuis dimanche. Profil de la ville, banlieue populaire, Mélenchon au premier tour, Macron et abstention au second. Le deuxième mandat sera-t-il moins jupitérien? Les négociations avec les partenaires de la majorité sont laborieuses avant les législatives. Croissance, pouvoir d'achat, dette, salaire, quel tableau? Et réforme économique au début de ce nouveau quinquennat, ce sera notre sujet à 13h30. J'attends d'ores et déjà vos questions, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. À gauche aussi, on négocie aujourd'hui le petit parti socialiste au siège des insoumis gonflé à bloc. Quelle concession, quelle union, le paysage politique français continue de se redessiner. L'Europe avait anticipé et va répondre, message de la Commission de Bruxelles, alors que Moscou coupe le gaz à deux pays de l'Union, la Pologne et la Bulgarie. Pourquoi ces deux-là? Vous aurez le dessous des cartes. Internet ralenti, voire coupé dans plusieurs villes et régions. Alsace, Auvergne, Rhône-Alpes. Piste la plus probable des actes de vandalisme. Détail dans un instant. Dans l'actualité encore, l'hommage à Michel Bouquet cet après-midi aux Invalides. Son élève au conservatoire, Muriel Robin, prendra la parole.
Quand on pense à Michel Bouquet, évidemment, il y a toujours le mot maître, le mot exigence, le mot humilité qui reviennent. Mais rien de négatif.
C'est tout à l'heure à 16h. C'est un mercredi, jour de sortie cinéma, qu'on rend hommage à Bouquet, les sorties de la semaine avec Corinne Pellissier. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, le feuilleton dans les Dark Kitchen, les cuisines fantômes où se préparent les plats livrés à domicile. Le vif de l'histoire, alors que le nouvel archevêque de Paris vient d'être désigné, une histoire politique de la cathédrale Notre-Dame avec Jean Lebrun. Et dans C'est une chanson, le critique de rock Philippe Manœuvre avec Aline Afanoukoé. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Vous l'avez peut-être remarqué chez vous ou au bureau, l'internet est ralenti, voire coupé dans une partie de la France. Les premières informations sont remontées il y a moins d'une heure. Béatrice Duguay, que sait-on de ces accros au réseau?
Alors les messages fleurissent depuis ce matin sur les réseaux sociaux pour se plaindre effectivement de difficultés à se connecter. Plus d'internet, plus de 4G, plutôt sur la partie est de la France. Alsace, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France. Autant d'incidents qui affectent presque tous les opérateurs. Orange et Bouygues de manière résiduelle, mais Free recense plusieurs centaines de problèmes de DSLAM, ces équipements qui acheminent les données vers l'ADSL. Le site Zone ADSL pointe lui près de 9000 pannes sur les liaisons internet fixes depuis 6h du matin avec un gros pic à 9h, tout en précisant que les liens vers Lyon et l'Est semblent de nouveau fonctionnels. SFR confirme aussi que des lignes de fibre ont été sectionnées autour de Lyon ainsi qu'en Île-de-France en cours de réparation. Alors que s'est-il passé? Du sabotage, ça se confirme. Des câbles longue distance de fibre optique sectionnés entre 3h et 5h30 du matin, câble qui relie les grandes villes. Selon l'Obs, l'une des coupures est repérée sur La Chapelle-la-Reine en Seine-et-Marne, clairement identifiée comme un acte de vandalisme. Des antennes relais ont déjà été la cible d'attaques ces dernières années, mais jusqu'à présent, les coupures de fibres étaient dues plutôt à des coups de pelleteuse malencontreux. Il s'agit cette fois manifestement d'autre chose, enquête de gendarmerie ouverte ou en cours de lettres.
Voilà pour cet internet coupé ou ralenti dans une partie de la France, Alsace, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et l'opérateur Free en particulier, sans doute des actes de sabotage. Merci Béatrice Duguay. Gouvernera-t-il de manière moins personnelle que lors de son premier mandat? Est-ce qu'il continuera d'aller au contact des Français? Voilà les premières questions après la réélection d'Emmanuel Macron. Pour son premier déplacement depuis dimanche, il a choisi Cergy en banlieue parisienne, ville populaire. La visite du marché, c'est là que vous êtes, Simon Le Baron, à Cergy.
Oui, dans une ambiance difficilement descriptible, Bruno, entre excitation et pour tout dire, début de panique, bousculade entre les stands de fruits et légumes, des femmes et des enfants en pleurs, évacués pour ne pas être piétinés. Quelqu'un jette des tomates, mais des tomates cerises. Le président, lui, entouré par son service de sécurité, échange tant bien que mal avec les habitants.
Vous savez très bien que vous n'avez pas été élu à l'unanimité. Il y a des gens qui ont voté.
N'existe pas, heureusement.
Oui, mais les gens, ils ont voté contre Marine Le Pen. Et ça, il faut absolument le prendre en compte. C'est hyper important.
Mais il ne faut pas dire qu'ils ont voté que pour ça. Parce que sinon, je n'aurais pas été à ce premier tour.
Il y a 30% des voix qui vous soutenaient, mais il y a 20% où c'était contre Marine Le Pen. Et ça, il faut le prendre en compte.
C'est pour ça que
toute l'abstention.
Ici, à Cergy, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du premier tour. Avec près de la moitié des voix, Emmanuel Macron l'a largement emporté au second avec 76%. Mais aussi une énorme abstention, autant de défis électoraux qu'il promet de relever, d'où ce déplacement organisé à la hâte après deux jours enfermés à la lanterne puis à l'Elysée.
Oui, mais faut pas que ça soit juste pour les images.
Mais moi, je suis plus en élection, vous savez.
Plus en élection, le président, vraiment, pas franchement exact. Emmanuel Macron est désormais entièrement tourné, on le sait, vers les législatives, le troisième tour, comme disent ses adversaires. Cette visite auprès d'un électorat populaire très disputé est évidemment une manière d'entrer dans la bataille.
Simon Le Baron en direct de Cergy avec Frédéric Kérou pour France Inter. Et depuis Cergy, le président annonce qu'il nommera un Premier ministre attaché à la question sociale, environnementale et productive. Voilà les propos qu'il a utilisés. Alors pour le côté contact avec les Français, comme lors de l'entre-deux-tours et régulièrement sous le premier quinquennat, on a un début de réponse avec Cergy ce matin, pour un pouvoir moins vertical. Ça se joue notamment dans les négociations d'avant-législatives avec les partenaires de la majorité. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Et ça se passe moyennement bien.
Il faut dire que proposer comme point de départ un parti unique, un groupe unique à l'Assemblée, cela a tendu les discussions. Emmanuel Macron en est revenu à première vue, mais il se méfie beaucoup de sa future majorité. Il a peur de la voir vite se diviser en écurie présidentielle, admet un ministre. Écurie notamment pour Édouard Philippe, qui depuis dimanche soir n'est toujours pas rentré dans le cercle des négociations. Je ne suis pas tenu par un deal que je n'ai pas passé, s'est-il agacé hier soir lors du bureau politique de son parti Horizon. En coulisses, François Bayrou défend aussi vivement ses troupes. Emmanuel Macron a refusé la moindre investiture avant la présidentielle pour maintenir ses fidèles sous pression. Désormais, il a un tableau Excel sous les yeux avec toutes les circonscriptions, gagnables ou non, les députés sortants, fiables ou non, et il tranche seul en espérant que cela fasse le moins de bruit possible, d'où le grand silence de sa garde rapprochée.
Et puis parallèlement, des personnalités qui lui sont plus ou moins proches l'appellent à davantage partager le pouvoir que lors de son premier mandat.
Et deux tribunes marquantes, celle de son ancienne plume et conseiller de l'Elysée, Sylvain Faure, dans l'Express. « Le nouveau quinquennat s'avance sur un champ de cendres », écrit-il. « On peut et on doit vouloir réformer la France, mais il y a plus urgent, réparer la démocratie, enjamber cette étape comme on a voulu au fond enjamber l'élection et faire l'économie d'un nécessaire ralentissement, d'une introspection. C'est passé à coup sûr de l'arrêt cardiaque à la mort cérébrale. Pour lui, la présidentielle n'a pas été la respiration démocratique indispensable. Seconde tribune, celle du patron de la CFDT, Laurent Berger, dans Le Monde. Va-t-il se recroqueviller sur la certitude de quelques-uns, comme cela a trop souvent été le cas ces cinq dernières années? Il réclame un grand rendez-vous social pour changer de méthode. La semaine dernière, Emmanuel Macron nous avouait ne pas savoir quelle forme prendrait le grand débat permanent qu'il a promis.
À gauche, les négociations pour une éventuelle alliance aux législatives battent un son plein et se dessinent ce matin à la une du Canard enchaîné. Les représentants de la France insoumise arrivent à la réunion avec le PS et leur lancent en guise de bonjour. Salut les soumis. Jusqu'où le parti de Mitterrand, Jospin, Delors, tombé à moins de 2% à la présidentielle? Jusqu'où le PS est-il prêt à aller dans les concessions pour faire alliance avec la France insoumise aux législatives? C'est l'objet de la réunion au siège de LFI dans le 10e arrondissement de Paris, ce qui est ainsi. C'est là que vous êtes, Antoine Gignot. Pas encore de résultats tangibles. Quelle ambiance ?
Ambiance attente et discussion des deux côtés. D'ailleurs, 3 heures de réunion et ce constat fait à l'instant par les représentants du Parti Socialiste. Il n'y a pas de point de blocage capable d'empêcher un rapprochement avec la France insoumise. Aucun désaccord de fond, aucun blocage total. Voilà ce que précise Pierre Jouvet, le porte-parole du PS. Sans donner de précision, les discussions, dit-il, doivent se poursuivre. C'est sur le fond que les représentants des deux partis doivent discuter. Il s'agit de savoir jusqu'où le PS est prêt à aller, qu'un cadre de la France insoumise. En jeu, notamment l'âge de départ à la retraite, 60 ans pour LFI, 62 pour les socialistes, c'était dans le programme d'Anne Hidalgo. Et le consensus sera peut-être encore plus complexe autour d'autres sujets comme le SMIC à 1 400 €, l'abrogation de la loi El Khomri votée à la fin du quinquennat de François Hollande, des sujets qui continuent de diviser la famille socialiste, mais qu'il va falloir aborder avant de parler d'accord global et de répartition des circonscriptions.
Antoine Gignot avec Geoffrey Marianne pour France Inter en direct du siège de la France insoumise, 10e arrondissement de Paris, que ce soit dans les négociations avec le PS ou avec les écologistes. L'objectif est de trouver un accord et de se fixer une date butoir en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Et quel est le tableau économique de la France alors que va commencer le second quinquennat Macron? Quelles sont les réformes urgentes et possibles? Ce sera notre sujet à 13h30 avec l'économiste Hippolyte Dalbis. Croissance, dette, salaire, pouvoir d'achat, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 ou via l'appli France Inter, rubrique Réagir. C'est vendredi dit que l'INSEE doit en dire plus sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance économique en France. Et avant d'évoquer les derniers développements de cette guerre, ce chiffre, depuis le 24 avril, 5 300 000 Ukrainiens, à 90% femmes et enfants, ont quitté leur pays et l'ONU anticipe l'exil de 3 millions de personnes supplémentaires dans les semaines et les mois à venir. Une part infime est aujourd'hui en France, environ 50 000. À Marseille, 700 d'entre eux sont accueillis en un lieu particulier, un ferry amarré dans le port de la Joliette. Reportage Fred Chapuis, France Bleu Provence.
Alors pour une partie des 200 enfants accueillis sur le navire, la journée se passe essentiellement à l'école. Des débuts hésitants pour le fils d'Alona.
L'école c'est difficile pour lui parce qu'il doit s'adapter, il ne parle pas français et tous les cours sont en français.
Dans le bateau, tout est pensé pour faciliter la vie des réfugiés. Des messages audio sont régulièrement diffusés.
Elle a dit que quelqu'un a perdu la carte de téléphone.
Pour Oksana, l'essentiel des heures se passe au pont 8 à la recherche du Wi-Fi. Cette maman d'un adolescent raconte ses journées à faire des papiers et à apprendre le français. Sur le bateau, 3 repas sont servis par jour. Irina apprécie les menus adaptés aux Ukrainiens.
Aujourd'hui, c'est le borscht et la soupe nationale ukrainienne. Général, c'est bon. Bon appétit à l'Ukrainienne. Smachnogo.
Une salle de cinéma projette chaque après-midi et soir des films en langue ukrainienne. Au total, 80 personnels de bord, comme Elodie, travaillent au service des réfugiés.
On est là pour les soutenir, pour leur mener une vie la plus confortable et avec beaucoup de... Le sourire le plus possible. Voilà, et puis il y avait des gestes, on essaye de se faire comprendre comme on peut. Dobrevitch, bonne journée.
Voilà pour l'aspect français, ce ferry amarré à Marseille, en Ukraine, au 63e jour de conflit. C'est aussi encore et toujours une guerre de communication. Nous sommes convaincus que nous gagnerons, affirme l'ambassadeur d'Ukraine en France. Et il avance des chiffres de pertes russes. Après plus de 2 mois, 22 000 soldats, 918 chars, 338 avions et hélicoptères, 2300 blindés. Chiffres uniquement de sources ukrainiennes. Donc, cela dit, l'Ukraine reconnaît une avancée des Russes dans l'Est et dans le Donbass. C'est assez rare. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Que sait-on des derniers faits de guerre?
Alors, les forces armées ukrainiennes, elles tiennent bon pour le moment. Elles conservent l'essentiel de leur position sur près de 500 km de ligne de front. Mais les Russes progressent à petits pas avec une puissance de feu inégalée selon une stratégie de la terre brûlée. Ils ont conquis des villages qu'ils ont ravagés, pilonnés avec des tirs d'artillerie lourdes, puis occupés avec des blindés vidés de leurs habitants. 3 fronts. Izium, au nord, Severodonetsk à 100 km à l'est et Pokrovsk, c'est à 150 km au sud. Et une tentative de prise en tenaille des 2 objectifs principaux de Moscou, les villes de Sloviansk et de Kramatorsk. La Russie ne reproduit pas les erreurs du début du conflit, avec ses percées rapides, profondes, qui ont posé de gros problèmes logistiques. L'avancée est désormais méthodique, mais très lente, et le temps joue pour les Ukrainiens, car de l'artillerie lourde devrait être livrée dans les prochaines semaines. C'est en tout cas la promesse des États-Unis et de leurs alliés. Des armes que Moscou affirme avoir en partie détruites lors d'une frappe de missile sur Zaporizhzhia. Zaporizhzhia, c'est à l'ouest du Donbass. L'information a été démentie par les autorités ukrainiennes.
Depuis hier, un peu plus, la crainte est nourrie d'une extension de la guerre à la Moldavie, voisine de l'Ukraine et qui compte elle aussi une région pro-russe, la Transnistrie. Les autorités de cette république séparatiste affirme qu'un village frontalier de l'Ukraine abritant des munitions de l'armée russe a été la cible de tirs ces dernières heures. La guerre est aussi économique. La compagnie de gaz polonaise le confirme. Gazprom a cessé d'approvisionner la Pologne. Idem en Bulgarie. Pourquoi ces deux pays en particulier sont-ils visés par la Russie? On voit cela dans un instant. L'actualité du matin, c'est la réponse européenne. L'Union s'était préparée et met au point une réponse coordonnée, assure la présidente de la Commission de Bruxelles, Ursula von der Leyen. Quelle réponse possible? Écoutez Nguyen Phuc Vinh, il est chercheur en politique énergétique à l'Institut Jacques Delors.
Aucun des pays n'est à l'abri. Les pays les plus touchés seront incontestablement notamment l'Allemagne, qui est très dépendant du gaz russe, qui a une connexion directe avec la Russie. Et puis, il y aura d'autres pays qui sont également dépendants. On peut penser à l'Italie, qui, eux, ont déjà mis en place des stratégies de diversification. Ce qu'on voit depuis la décision d'hier, c'est que certains pays étaient très préparés. La Pologne, par exemple, avait ses stockages de gaz remplis à hauteur de 75%, là où la moyenne de l'Union européenne est de 30% à l'heure actuelle. Donc, vraiment, l'objectif, ça va être, d'une part, de remplir nos stockages de gaz avec du gaz naturel liquéfié qui proviendra des États-Unis, du Qatar, de l'Australie. Et d'autre part, c'est lancer vraiment une grande campagne de sensibilisation pour réduire notre consommation au niveau européen d'électricité, de gaz. On va potentiellement arrêter d'importer du gaz liquéfié russe et on va pouvoir potentiellement passer à un embargo complet sur les hydrocarbures russes, ce qui va vraiment rendre la Russie exsangue en termes d'approvisionnement financier.
Propos recueillis par Anaëlle Larue et à l'instant, Bruxelles propose de suspendre tous les droits de douane de l'Union européenne pour les produits ukrainiens. Reste donc cette question, pourquoi C'est la Bulgarie et la Pologne que Moscou a choisi comme premier pays où elle coupe le gaz. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Le dessous des cartes avec vous Isabelle. D'abord la Pologne.
La Pologne qui depuis le début du conflit est l'un des pays de l'OTAN, vous le savez, les plus offensifs face à Moscou. Début mars, elle était même prête à céder gracieusement ses avions de chasse pour aider les Ukrainiens. Aujourd'hui, elle envoie des armes lourdes à Kiev et surtout, elle sert de plateforme logistique pour assurer les livraisons de tout le matériel occidental. Et puis sur le plan énergétique, si elle est dans le collimateur de la Russie, c'est d'abord parce qu'elle refuse de payer ses approvisionnements en roubles, comme l'exige Moscou. Ensuite, parce que c'est elle qui pousse ses partenaires européens au scénario le plus radical, celui d'un embargo total sur le gaz russe. Elle peut le faire, on l'a dit, parce que ses réserves sont importantes. En tout cas, elle s'était largement préparée à ce scénario. La ministre de l'Environnement assure ce matin qu'il n'y aura aucun risque de pénurie de gaz.
Voilà pour la Pologne. Pourquoi la Bulgarie est-elle visée?
Alors, c'est un peu plus flou officiellement. Sofia refuse de fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. C'est vraiment sa ligne rouge. Sauf que dans les faits, la Bulgarie est l'un des principaux pourvoyeurs d'armes à Kiev. Elle fabrique beaucoup d'armes légères et de munitions de type soviétique qu'elle livre en douce via des pays tiers ou des intermédiaires opaques. D'après une enquête du magazine économique bulgare Capital, le gouvernement a même signé un contrat avec le Royaume-Uni, normalement pour la destruction et le recyclage d'armes qui en réalité ont fini dans les mains des combattants ukrainiens. En tout cas, en volume, et ça c'est important, la Pologne et la Bulgarie ne sont pas de gros consommateurs d'hydrocarbures russes, beaucoup moins que l'Allemagne ou l'Italie. La tentative d'intimidation de Moscou a cet avantage de ne pas lui coûter trop cher.
Ajoutons que la Russie interdit d'entrer près de 300 parlementaires britanniques. C'est la diplomatie russe qui l'annonce et l'Organisation mondiale du tourisme annonce que la Russie se retire de cette organisation. En France, les conséquences économiques de la guerre, c'est notamment un manque d'huile de tournesol. L'Ukraine en assurait avant la guerre 50% du commerce mondial. Pour compenser, les fabricants de margarine, de chips, de sauces peuvent changer de recette, mettre du colza par exemple, sans changer l'emballage immédiatement, sauf s'il y a une modification majeure, une huile 100% bio qui ne le serait plus par exemple, ou étiquetée sans huile de palme alors que ce ne serait plus le cas. Des milliers de produits sont concernés par ces éventuels changements de recettes selon l'association Foodwatch. Parallèlement, Sandrine Eto à Andegue, les agriculteurs développent leur production de tournesol.
Cela fait une semaine que cet agriculteur sartois...
Dominique Defay, je suis agriculteur sur une exploitation de 170 hectares en polyculture.
Passe 15 heures par jour dans la cabine de son tracteur ultra connecté.
Là, c'est le moment des semis pour le tournesol.
D'après la Fédération des producteurs d'oléoprotéagineux, les surfaces consacrées au tournesol représentaient en France 700 000 hectares en 2021. En 2022, ce sera 800 000 hectares selon les prévisions.
J'avais prévu environ une vingtaine d'hectares de tournesol sur les 170. J'ai remis 9 hectares de plus. Alors c'est vraiment le conflit ukrainien qui a fait que j'ai pris ma décision, puisque le prix des graines a augmenté fortement à ce moment-là. À la valeur d'aujourd'hui, le tournesol vaut pas loin de 800 euros la tonne, alors qu'il y a un an et demi, ça en valait à peine 400. Ça serait économiquement intéressant, je pense. C'est un pari sur l'avenir.
Augmenter la production de graines de tournesol, c'est aussi l'objectif d'une partie des 90 agriculteurs de la coopérative Oléande. L'entreprise basée dans les Landes produit une huile pressée à froid, vendue déjà 30% plus cher que l'huile industrielle. Son prix a encore été augmenté.
On était entre 4 euros et 4,50 euros. Maintenant, on est sur du 5 euros la bouteille.
Mais pas de quoi repousser les acheteurs, selon son directeur général, Julien Saint-Palais.
Parce qu'ils sont vraiment désespérés et ne trouvent pas d'autre huile ailleurs.
La société, qui tourne déjà à plein régime, est très sollicitée.
Par pas mal d'industriels ou même de restaurateurs, même au-delà de la France, sur l'Espagne ou l'Italie, on a été contactés. Malheureusement, le peu d'huile que nous avions en supplément, tout a été vendu en quelques jours.
Produire plus de tournesol, c'est une solution à court terme, selon Mickaël Nogal de l'Association nationale des industries alimentaires.
La solution à moyen terme et à long terme, c'est de travailler sur la souveraineté alimentaire, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, être certain demain que, en cas de crise, on ne soit pas pris de court et qu'on puisse avoir des alternatives.
À défaut d'huile de tournesol, les consommateurs pourront aussi se rabattre sur le colza, dont les surfaces devraient augmenter de 18% par rapport à 2021.
Et on parlait tout à l'heure des tensions entre Bruxelles et Moscou à propos de la guerre en Ukraine. Tensions entre Bruxelles et la Hongrie également. La Commission européenne déclenche une procédure contre la Hongrie qui peut aboutir à la réduction de certains fonds versés au pays, voire à une suspension de l'Union européenne. Au dernier terme, c'est toujours la question du respect des principes de l'état de droit en Hongrie qui est en question. Voilà un autre facteur d'inégalité entre hommes et femmes au travail. Elles sont plus nombreuses qu'eux à avoir des horaires atypiques. Travailler tôt le matin, tard le soir, ou le week-end, ou la nuit encore. Globalement, le boulot en horaire décalé augmente sur les 20 dernières années. Les femmes peu qualifiées y sont de plus en plus exposées. C'est la conclusion d'une note de l'Institut d'études démographiques. La sociologue Anne Lambert, autrice de cette étude, était l'invitée de France Inter ce matin.
Historiquement, elles étaient un peu en retrait. Vous savez, en France, elles étaient interdites de travail de nuit, notamment pendant très longtemps, pour protéger la moralité des femmes, pour protéger la fécondité. On voulait surtout que les Français se reproduisent. Là, aujourd'hui, on a une ouverture, un accès généralisé à tous les types d'horaires. Alors, pourquoi les femmes, et notamment les femmes, travaillent plus le week-end que les hommes? C'est tout simplement parce qu'elles travaillent massivement dans le commerce et la distribution. C'est les vendeuses, mais aussi les agents de nettoyage au sol, les agents de caisse, les agents polyvalents. Et donc elles sont massivement exposées au travail du dimanche notamment, qui a augmenté. Et puis elles travaillent beaucoup dans le secteur de l'hébergement, restauration, dans tout ce qui est lié au tourisme et pas seulement. Et la santé, bien entendu, aide-soignante ou aide à domicile, etc. Où là, massivement, la demande du travail en horaire atypique et en augmentation constante, hein, avec le vieillissement de la population. Et puis également, en période de pandémie, comme on observe, elles sont très mobilisées.
Un propos recueilli par Mathilde Munoz. Patrick Poivre d'Arvor annonce porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre 16 femmes qu'il accuse de harcèlement et violence sexuelle. La plainte a été déposée cette semaine auprès du doyen des juges d'instruction de Nanterre, selon son avocat. Voilà l'une des raisons du fort vote Le Pen aux Antilles. Le scandale du chlordécone, cet insecticide utilisé dans les bananeraies, responsable de cancer de la prostate, interdit en France en 1990, mais autorisé jusqu'en 1993 en Martinique et en Guadeloupe. Le 25 mars, juste avant la présidentielle, la justice a annoncé la fin des investigations, prescription, trop tard pour poursuivre. Christophe Legvac, avocat au barreau de Paris, représente 3 associations de victimes. Il est signataire d'une tribune qui appelle à changer les règles de la prescription.
Point de départ de la prescription, c'est le jour de la pollution. Donc 6 ans plus tard, on ne peut plus poursuivre les pollueurs. Et donc on propose de décaler le point de départ à la fin de la pollution. Ça forcerait les pollueurs à se dépêcher de dépolluer pour éviter d'être poursuivis. Et ensuite, ça permettrait aux victimes d'avoir plus de temps pour se retourner, pour comprendre la situation. Mais on sent bien qu'il y a une volonté, je vais dire, politique de clore le dossier, ce qui est d'ailleurs une bêtise sans nom parce que cela risque de créer des tensions aux Antilles. Les gens ne supporteront pas d'être encore une fois oubliés et maltraité. Imaginez si 92% de la population parisienne était contaminée par un pesticide, ça ferait la une de tous les journaux et surtout ça forcerait le gouvernement à agir immédiatement. Là, ça fait au moins 20 ans que les populations locales demandent une action efficace et ont fait du saupoudrage de subventions et des réunions d'information. En décalant le début du calcul de la prescription à la fin de la pollution, ça ferait gagner dans le dossier du chlordécone des centaines d'années puisque la pollution va durer plusieurs centaines d'années.
Propos recueillis par Nolwenn Lejeune et la tribune est à lire sur le site de nos confrères de France Info. Il faut bien 3 grands noms du cinéma et du théâtre et le président de la République pour rendre hommage à une telle personnalité. À 16h tout à l'heure, Hôtel des Invalides à Paris, hommage national à Michel Bouquet, l'homme qui a joué plus de 800 fois Ionesco, immense acteur de théâtre, mais aussi Mitterrand ou Javert au cinéma, et d'autres encore devant les caméras de Chabrol ou Truffaut. Avant l'éloge funèbre prononcé par Emmanuel Macron tout à l'heure, prendront la parole Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et Muriel Robin.
Je vais parler évidemment de l'homme. J'ai fait une lettre, je m'adresse à lui et on retrouvera certaines choses communes évidemment dans les discours de Pierre Arditi et de Fabrice Lucchini, parce que quand on pense à Michel Bouquet, évidemment il y a toujours le mot maître, le mot exigence, le mot humilité qui reviennent. On est tous d'accord sur... C'est rare d'être d'accord à ce point-là sur un homme avec toujours les mêmes mots qui reviennent et rien de négatif. Michel Bouquet nous disait que des mots que jeunes, on n'a pas tellement envie d'entendre. Il faut servir et non pas se servir, qu'il faut lire et lire et relire la pièce et relire le texte, relire aussi les biographies de tout ce qu'on trouve sur l'auteur pour quelque part, entre guillemets, devenir l'auteur. Il y a des choses qui montent du texte et donc qui ne nous appartiennent pas, mais qui montent du texte comme une façon, encore une fois, très humble de respecter le texte. Vraiment, je souhaite à des futurs comédiens et comédiennes de rencontrer un Michel Bouquet, mais je crains que le... Je pense qu'il est parti avec le moule.
Muriel Robin, ce matin sur France Info, elle qui était l'élève de Michel Bouquet au conservatoire. Voilà qui nous mène à la sélection cinéma du mercredi. Bonjour Corinne Pélissier.
Bonjour.
Quand les séries s'invitent sur grand écran, c'est le retour au cinéma de Downton Abbey.
Voilà, plaisir intact, hein, évidemment, de retrouver cette petite musique, le générique et la famille Crowley qui se prépare dans ce deuxième film à tourner une page importante de son histoire. De nouveaux personnages vont arriver, il y aura des mariages, des révélations, des secrets. Chut. Une double intrigue pour nous tenir en haleine, il fallait bien ça, car après 6 saisons pour la télévision et un premier film, la magie commence un poil à s'estomper et on voit bien que les scénaristes sortent un peu les rames pour trouver de nouvelles histoires à raconter entre un tournage de film au château et un héritage un peu capillotracté avec dans une villa sur la French Riviera avec Nathalie Baye, des comédiens français. Les costumes sont toujours au top, les domestiques toujours aussi attachants, mais il faut bien l'avouer, on a beau être super fan, il faudra quand même un sacré coup de fouet avant de nous donner l'envie un jour d'un troisième volet.
Downton Abbey, donc si on a vraiment envie, autre sortie du jour, Ma famille afghane, Corinne, c'est un film d'animation.
Adapté d'un roman tchèque qui met en scène une étudiante en économie à Prague. Elle va tomber amoureuse d'un Afghan, le suivre à Kaboul pour l'épouser au début des années 2000 alors que les talibans règnent encore sur le pays. C'est un film évidemment qui fait écho largement à ce que vivent à nouveau les femmes aujourd'hui dans le pays. Le manque de liberté, l'isolement que l'on découvre à travers des yeux occidentaux, c'est ça qui est intéressant dans le film. 20 ans plus tôt, un témoignage au quotidien. C'est une forme animée très sommaire, très stylisée mais qui rend l'histoire vraiment universelle.
Et cela s'appelle Ma famille afghane. Votre troisième choix ce mercredi, Monia Chokri, Babysitter, film québécois sur la misogynie.
Alors voilà, comment devient-on misogyne et surtout peut-on s'en sortir quand on connaît l'univers de Monia Chokri?
Ne me regardez pas comme
on
ça.
On se dit que la réponse va passer par une bonne dose d'humour.
Une femme sur trois qui est victime d'agression sexuelle dans sa vie. Genre, à quel moment t'as senti que ton rapport aux femmes est devenu problématique?
Café?
Hein?
Qu'est-ce
que
c'est? Je retourne travailler.
Ça se prépare un retour au travail.
Je leur ai écrit cette nuit.
Alors au cœur du film, deux personnages, Nadine et son mari Cédric, que l'on vient d'entendre ici. Ils viennent d'avoir un enfant, à la maison l'ambiance n'est pas franchement aux galipettes. Alors quand il sort avec ses copains, Cédric eh bien, va boire des bières, assister à des combats de MMA. Et il se lâche au point d'agresser un jour en direct une journaliste télé qui l'embrasse goulûment, lui criant dans l'oreille « Chantal, je t'aime ». Dans la foulée sur les réseaux, eh bien, c'est le bad buzz. Son employeur va le suspendre de son travail. Cédric devra s'excuser et réfléchir surtout à son rapport aux femmes et à sa virilité. Sujet on ne peut plus dans l'air du temps, abordé ici de manière que je trouve brillante, avec beaucoup d'humour, en alternant vraiment les points de vue et en ajoutant une touche épicée avec une babysitter au tempérament un peu volcanique qui va venir complètement bousculer le cadre et faire exploser tous les préjugés des personnages. On l'avait découverte il y a 3 ans avec La femme de mon frère, son premier film. Monia Chokri confirme ici son potentiel, son écriture est très drôle, très efficace.
Et le film s'appelle donc Babysitter, l'un de vos trois choix avec Ma famille afghane et Downton Abbey avec affection, mais un petit peu moins d'enthousiasme pour Downton Abbey. Merci Corinne Pélissier. 21h ce soir, deuxième demi-finale de la Ligue des champions de football, Liverpool-Villarreal, après Manchester City-Real hier 4-3 pour les Anglais. C'était le match de l'année selon les observateurs. On verra si c'est aussi beau ce soir à partir de 21h.
Franceinter.fr présente
Le code a changé.
L'invasion de l'Ukraine n'a pas provoqué la cyberguerre à laquelle s'attendaient nombre de spécialistes.
Xavier Delaporte.
La cyberguerre aura-t-elle lieu un jour? Le numérique a-t-il changé quelque chose à la doctrine militaire? Pour y répondre, il faut plonger dans l'histoire et dans nos écrans.
Le code a changé. Le podcast de nos révolutions digitales.
Abonnez-vous sur franceinter.fr et l'application Radio France.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
Journée ensoleillée, sauf dans le sud-ouest.
Oui, effectivement, des averses orageuses en provenance d'Espagne vont circuler cet après-midi du côté des Pyrénées-Atlantiques pour gagner les Landes avant la fin de la journée, puis la Gironde en soirée en perdant progressivement de leur activité. Et puis dans les autres régions, sous l'influence des hautes pressions, prévoyez un temps sec et ensoleillé. Le vent de nord-est est sensible sur le nord et le nord-est du pays. Il atteint 50 à 60 km par heure le long des côtes de la Manche. Puis côté température, les maximales évolueront entre 13 et 23 degrés. N'attendez pas plus de 13 degrés à Cherbourg, 16 à Bayonne, 17 à Cambrai, 18 à Nancy et Bastia. Comptez 19 à Paris et Dijon, 20 à Rennes, 22 à Marseille et 23 à Limoges.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Dans quel contexte économique Emmanuel Macron va-t-il entamer son deuxième mandat? Peut-être moins brillant que ce qui se dessinait avant la guerre en Ukraine. Croissance nettement ralentie, prix en hausse, dettes plus problématiques que naguère, puisque les taux d'intérêt risquent de remonter pour juguler l'inflation. La question du pouvoir d'achat a marqué la campagne. Comment y répondre dans ces conditions? Mesures ponctuelles ou plus durables? Augmenter les salaires, par exemple? Le président réélu estime que la meilleure réponse, c'est l'emploi. Il fait du plein emploi un objectif de son second quinquennat. Est-ce possible avec une croissance qui ralentit, en tout cas pour l'instant? Quelles mesures économiques après la réélection? J'attends vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Notre invité jusqu'à 13h45 est membre du Cercle des économistes, directeur de recherche au CNRS. Et il vient de diriger un ouvrage collectif aux éditions Odile Jacob, Les économistes répondent aux populistes. Bonjour Hippolyte Dalbis.
Bonjour Bruno Duvic.
Et merci de venir dans les studios de France Inter. Est-ce qu'après les 140 milliards d'euros du quoi qu'il en coûte, les 20 du bouclier tarifaire, les 100 du plan d'investissement, il sera difficile d'ouvrir à nouveau le carnet de chèques dans les mois à venir?
Pour l'instant, c'est encore possible.
Bon. Voilà,
c'est vrai, c'est étonnant. J'aurais jamais cru, même en tant qu'économiste, qu'on puisse dépenser autant d'argent. La période qu'on vient de passer, c'est-à-dire les deux ans comme ça du quoi qu'il en coûte, sont incroyables. On est arrivé à des niveaux de dette à plus de 110% du PIB. Oui. C'est étonnant. Alors c'est vrai qu'il y avait un contexte qui était extrêmement favorable, c'est-à-dire un contexte de taux d'intérêt très faible, ce qui fait que finalement s'endetter ne coûtait pas à court terme. Et puis il y avait évidemment cette pandémie avec un contexte institutionnel aussi qui a été très particulier et un consensus autour de l'idée qu'on pouvait dépasser les plafonds qu'on s'était imposés jusqu'à présent.
Et est-ce que désormais cela devient un problème avec une dette, vous le disiez, à 113% et possiblement des taux d'intérêt qui vont remonter?
Alors à partir du moment où les taux d'intérêt vont remonter, s'endetter va coûter de plus en plus cher. Mais je dirais que le fait d'avoir des taux d'intérêt faibles peut être même un petit peu pervers, parce que justement ça vous coûte rien, mais ça vous coûte rien à court terme.
Oui.
C'est-à-dire que vous endettez, ça vous coûte rien pendant que la maturité court, et lorsqu'on arrive au terme de la dette, il faut bien rembourser. Vous voyez, la direction du Trésor, ou l'agence France Trésor plutôt, qui s'occupe de gérer la dette de l'État, émet des obligations généralement à 10 ans.
Oui.
Donc au terme des 10 ans, il faut rembourser. Donc oui. Vous voyez, l'année 2020, la dette publique française a augmenté de 20%. C'est colossal. Donc majoritairement, on peut dire, c'est pas exactement ça, mais majoritairement, on s'est endetté à 10 ans. Donc ça veut dire qu'en 2030, il faut rembourser. Et ça, c'est un vrai souci. Alors, là où c'est pervers, c'est que le gouvernement, lui, il a un horizon de 5 ans.
Ouais.
Et donc, il n'est pas très gêné de ce point de vue.
Mais
il met la situation, l'économie, dans une situation qui est potentiellement compliquée.
Mais dans vos propos, alors, potentiellement compliquée, dans vos propos et même dans votre ton, on entend certains économistes, voire politiques, je pense à un Édouard Philippe, par exemple, qui disent « alerte dette ». J'entends pas cette urgence-là dans vos propos, Hippolyte Dalbis.
Alors, en effet, c'est pas l'urgence du moment, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de modifier la trajectoire de dette. C'est vraiment très important.
Oui.
Et alors, ça va venir d'une façon conjoncturelle, parce qu'elle va nous coûter plus cher. Les taux d'intérêt vont remonter du fait des pressions inflationnistes, mais il faut aussi renouveler la réflexion sur quel est le bon niveau de dette que l'on veut pour un pays. D'accord ? Donc, si on n'est plus dans les critères de Maastricht, on s'était engagé avant à respecter en fait un niveau de dette, il faut dépasser ça et se dire mais qu'est-ce qu'on veut comme dette ? Parce qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est qu'à la fin on rembourse la dette. Alors, le consensus aujourd'hui là-dessus, il est qu'il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Hein. Vous voyez, une bonne dette, c'est quelque chose qui sert l'avenir. Typiquement, investir dans l'éducation, investir dans la transition écologique, etc. etc. Mais c'est, et c'est pas faire des dépenses courantes. Hein. Voilà. Et donc, il y a un petit peu ce consensus qui se forme auprès de tous. Hein. Vous citez des politiques, etc., des économistes. Mais je pense que globalement, les gens sont d'accord pour dire que lorsqu'il y a une dépense d'avenir, il faut, on peut faire de la dette parce que ça va engendrer potentiellement de la croissance et donc des capacités de rembourser cette dette.
Question de Denis, pour vous au standard Hippolyte Dalbis. Bonjour Denis.
Bonjour.
Vous nous appelez de Grandvilliers, vous voulez parler salaire.
Oui, une question tout simple. est-il possible d'augmenter le SMIC dans l'économie française sans que celle-ci soit défaille? Parce qu'il me semble que augmenter le SMIC, c'est une juste répartie par rapport à l'augmentation de l'inflation constante. Oui. Et cette augmentation permettrait de toute manière d'être réinvesti dans le cercle vertueux de l'économie, puisque les gens qui sont dans une précarité salariale permettrait à ces Français de dépenser cet argent dans l'économie et non d'épargner. Ça paraît une évidence.
Alors Hippolyte Dalbis, peut-on augmenter le SMIC? Il y aura des augmentations automatiques liées à l'inflation. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que ça mettrait l'économie en difficulté? Je ne sais pas si c'est une bonne façon de le formuler de ma part.
Non, c'est une très bonne façon, et votre auditeur et vous, de le formuler. Alors le SMIC est réajusté. Il est réajusté avec un délai. C'est ça qui peut engendrer des petites tensions, c'est-à-dire que finalement la hausse des prix qui est prise en compte pour réaugmenter le prix est une augmentation des prix passée.
Oui.
Donc il y a un petit décalage. On pourrait avoir des revalorisations plus fréquentes en fait du SMIC pour pas que les gens perçoivent ce décalage. Et donc je dirais que les salaires, en tout cas au SMIC, mais on pourrait parler aussi des retraites de base, elles aussi sont valoriser. Donc le système, il y a un système de stabilisateur social qui fait qu'une partie de la population est protégée contre ces augmentations de prix, comme votre auditeur l'a fait remarquer. Maintenant, il y a quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe, c'est que en fait l'augmentation des prix n'est pas uniforme sur tous les prix. Vous voyez, c'est pas tous les prix des biens que l'on consomme qui augmentent, mais ce sont certains.
Et ce que dit l'OFCE, c'est qu'au fond, l'inflation actuelle, elle touche encore plus proportionnellement les plus pauvres que les plus riches, pour le dire vite.
Voilà, elle le dit parce que typiquement les plus pauvres consomment une plus grande partie de leur salaire, et donc donc nécessairement ils se retrouvent confrontés aux menaces inflationnistes. Mais pour revenir vraiment sur la question de votre éditeur, il faut voir que l'inflation actuelle, elle est portée par les prix des produits alimentaires et surtout les prix de l'énergie. D'accord. Donc vous avez un accroissement des prix de l'énergie. Donc ceux qui, parmi ceux qui sont au SMIC, ceux qui dépensent beaucoup d'énergie vont être plus affectés. Et donc pas forcément compensés, voyez, par une augmentation du SMIC. Et donc on pourrait vouloir justement plus compenser ces personnes-là. Et là où il y a une difficulté, c'est là que je pense que le point est crucial, c'est que on veut des prix de l'énergie chers. On veut que les prix
pour la transition écologique.
Voilà. On n'a pas trouvé mieux. En tout cas, bon, il y a peut-être des solutions techniques, etc. Mais en tant qu'économiste, si on veut aller vers une sobriété, si on veut aller vers moins de consommation d'énergie, on n'aura pas trouvé mieux que l'augmentation des prix, de l'énergie. Donc ça crée des tensions. J'en suis au courant, etc. Ouais. Mais c'est un pis-aller. Alors l'action du gouvernement, si vous voulez, c'est de faire en sorte que cette augmentation ne soit pas trop brutal. C'est comme ça que je lis typiquement les mesures de type bouclier tarifaire. C'est-à-dire, on veut l'augmentation des prix, mais on veut qu'elle soit pas trop brutale. Après, il y a quand même aussi une partie de la population qui est en situation de précarité énergétique. Il y a un observatoire de la précarité énergétique qui alerte quand même depuis plusieurs années avec une augmentation de la part des gens qui ont des difficultés à se chauffer, qui ont des difficultés à maintenir une température qui soit acceptable dans leur langage, du fait de la hausse des prix. Donc tout l'enjeu, si je puis dire, aujourd'hui de l'inflation, ce serait pas d'augmenter tout le monde ou de compenser tout le monde pour la hausse de l'énergie, mais bien de compenser ceux qui sont en précarité énergétique.
Et lors du débat d'entre-deux-tours, il y a eu un débat justement sur le thème mesures ponctuelles ou mesures durables. Au fond, comment on dope le mieux le pouvoir d'achat sans trop booster l'inflation? Est-ce que c'est avec justement des mesures type bouclier tarifaire, les primes Macron, le chèque alimentation, ou est-ce que c'est avec du salaire?
Alors, de façon durable, je dirais tout d'abord que ça fait 2 ans qu'on préserve le pouvoir d'achat. Il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on passait en confinement, d'accord? Les gens arrêtaient de travailler et l'État français s'est endetté pour distribuer des salaires à tout le monde. Donc, je veux dire, la priorité du pouvoir d'achat, c'est pas juste la campagne présidentielle. En fait, ça fait 2 ans que le gouvernement ne travaille que à la préservation du pouvoir d'achat. Maintenant, pour maintenir cette augmentation, pour maintenir face à une inflation qui pourrait augmenter le pouvoir d'achat durablement, ce qu'il faut, c'est améliorer la formation, c'est améliorer la qualité des emplois. Je veux dire, les gens se préserveront de l'inflation en ayant un travail de bonne qualité. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Il y a un vrai enjeu sur la formation de la part du gouvernement.
Et donc l'enjeu plein emploi, puisque c'est aussi un des thèmes que j'évoquais dans ma présentation, le passage au plein emploi, le fait de passer de 7-8 à moins de 5% de chômage, ça se joue sur la formation. Le levier, il est là pour aller vers le plein emploi.
Alors, oui. Le niveau aujourd'hui d'emploi, le taux de chômage est quand même historiquement faible, hein, oui. Il faut le dire. Il y a eu certes, évidemment, en 2020, il y a eu un petit choc, mais on revient sur la tendance, une tendance qui a commencé en 2012. Hein, vous vous rappelez de François Hollande, oui. Hein, qui voulait inverser la courbe du chômage. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on a rigolé, mais oui. Néanmoins, c'est bien ce qui s'est passé. Oui. Depuis, on a une baisse du chômage, donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Aujourd'hui, il y a deux points. C'est que, un, on voudrait certes que tout le monde ait un emploi, mais tout le monde ait un emploi de qualité. Alors, donc, voilà. Je reviens sur le premier point. Et le deuxième élément, on a un enjeu, et ça, c'est apparu très clairement dans le cadre des débats de la présidentielle, c'est l'enjeu de l'emploi des seniors, c'est-à-dire des 55-64 ans.
Avant que vous parliez de la qualité, je voudrais qu'on entende Jean-Claude, parce qu'il est sur ce thème, justement, au Standard. Bonjour, Jean-Claude.
Oui, bonjour. Je voulais poser une question sur la qualité du travail pour le plein emploi. Est-ce que c'est un emploi qui va être adapté, je dirais, à des conditions de travail de plus en plus dégradées, un peu comme l'ubérisation et ce qu'on a dit, ou est-ce que c'est des qualités d'emploi aussi pour le salarié ?
Merci Jean-Claude pour cette question, Hippolyte Dalbis.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Alors, lorsqu'on parle d'emploi de qualité, en fait, on dit des emplois qui sont justement qui donnent des bonnes conditions de travail, qui sont intéressants, qui permettent aux uns aux autres de s'émanciper avec le travail. Je suis pas naïf. Hein, il y a une grande partie des emplois qui ne sont pas qui ne sont pas de ce type. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'acquisition de compétences en formation initiale et en formation continue.
Mais la question aussi, c'est est-ce que derrière cette baisse du taux de chômage, ce cas au fond des emplois qui se seraient dégradés. Notre auditeur disait des emplois ubérisés. C'est un argument qu'on oppose régulièrement à Emmanuel Macron quand il met en avant ce taux de chômage qui baisse.
Oui, tout à fait. Mais c'est légitime. Je dirais que ça se polarise. En fait, la notion qui est importante, c'est que ça se polarise. Vous avez des gens qui ont des emplois dits de bonne qualité, qui sont intéressants, qui sont justement avec des hausses de salaire, qui sont bien payés, qui sont émancipateurs, et d'autres qui ont des situations qui sont de plus en plus dégradées, plus précaires, etc. Et c'est ça un petit peu la fracture de la société française. C'est une fracture que l'on retrouve aussi dans les urnes, que l'on retrouve politiquement, et qu'il est important, je veux dire, en tout cas pour le personnel politique et pour les années à venir, d'essayer de réparer.
Deux questions, je les prends dans ma voix. On a parlé de la dette au début de cet entretien. Georges nous demande à qui la France doit sa dette et où se trouve cet argent ?
Une grosse partie de la dette est détenue par des investisseurs étrangers. Et vous savez ce qui s'est passé en fait pendant la période Covid, c'est que l'État français a émis de la dette. Hein, c'est-à-dire que concrètement, il va faire une enchère en fait sur les marchés financiers. Il demande à un certain nombre de banques qui sont accréditées, est-ce que vous souhaitez participer et racheter ma dette ? Et très rapidement, en fait, cette dette est échangée sur les marchés. Oui. En particulier, ce qu'on a appelé les politiques non conventionnelles, c'est que la Banque Centrale Européenne a racheté ses dettes.
Question de Camille. On dit souvent, écrit-elle, d'Emmanuel Macron qu'il soutient une politique économique très libérale. D'abord, est-ce que vous diriez ça à propos de la politique économique d'Emmanuel Macron ? Diriez-vous qu'elle est très libérale ? Et je vous donne la suite de la question de Camille ensuite.
Non, spontanément, je dirais pas que c'est très libéral, quoi. Il faut s'entendre. Après, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Donc, je vois bien que lorsqu'on l'utilise aujourd'hui, en fait, on l'emploie pas dans son acceptation la plus
positive,
stricte.
Ouais.
Maintenant, on a une économie où l'État intervient énormément, intervient tout le temps. Je veux dire, c'est très difficile même d'avoir une conversation économique où lorsqu'on évoque un problème, tout de suite, on va se tourner vers l'économie. l'économiste ou avec l'expert en lui disant mais qu'est-ce que l'État doit faire. Donc ça, c'est le contraire, en fait, je dirais, d'une société ou d'une économie libérale.
Et deuxième partie de la question de Camille, est-ce qu'on doit sortir d'un système économique qui aurait pour seule boussole la croissance ?
Alors, ça c'est très souvent évoqué, hein, et c'est notamment évoqué dans le cadre de la volonté d'avoir une espèce de sobriété pour mieux préserver l'environnement. Le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Qu'à mettre en œuvre.
Voilà. Donc, sortir de la croissance, ça veut dire avoir moins de revenus dans votre économie à répartir. Ça veut dire moins de recettes fiscales, donc moins de possibilités pour l'État de compenser un certain nombre d'injustices, moins de possibilités aussi pour investir dans la transition énergétique. Et donc, ça laisse moins de marge de manœuvre. Maintenant, je comprends bien, en fait, cet objectif.
Merci Polyte Dalbis d'avoir répondu à nos questions. Les économistes répondent aux populistes. C'est publié chez Odile Jacob. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
C'est dans 10 minutes. Quel est le menu aujourd'hui ?
L'archevêque de Paris est nommé. C'est un blanc. L'emploi de bonne qualité et qui doit contribuer à réparer les fractures françaises.
Et histoire politique de la cathédrale Notre-Dame. Les cuisines fantômes où se préparent les repas livrés à domicile. Ce sera le feuilleton et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
Le journaliste et critique musical Philippe Manœuvre est à votre micro aujourd'hui et il vous raconte la chanson qui a marqué sa vie.
Philippe Manœuvre, aussi punk et rockstar que les artistes qu'il côtoie, évoque Learn to Fly des Foo Fighters, qui est à l'origine de sa nouvelle carrière de maître de cérémonie.
Elle rentre dans ma vie le 30 juillet 2015.
Ah, c'est précis.
Voilà, oui, parce que c'est à cette date que 1000 Italiens se réunissent dans le stade de Cesena, en Italie, pour jouer Learn to Fly. La raison ? Eh bien, c'est qu'ils ont appris, ces 1000 Italiens, que le groupe Foo Fighters faisait sa première tournée en Italie, mais ils ne passent pas par Cesena. Et donc, ils sont tellement déçus,
frustrés,
éplorés, qu'ils se réunissent à 1000 dans le stade et ils inventent un système avec un clic-trac électronique pour jouer la chanson tous ensemble.
Incroyable.
Ils la mettent sur les réseaux sociaux. Un jour plus tard, il y a 1 500 000 vues et Dave Grohl,
le leader
des Foo Fighters, hein, l'ancien batteur de Nirvana, qui est maintenant chanteur-guitariste des Foo Fighters, appelle nos amis italiens de Cesena et leur dit: écoutez, calmez-vous, on arrive, on va jouer dans votre ville si vous êtes à ce point-là.
Motivé.
C'est beau. Et voilà, et c'est comme ça qu'est né le Rockin' Mill que je vais présenter au Stade de France pour la deuxième fois le 14 mai prochain. Voilà, c'est à cause de cette chanson, c'est la chanson déclencheur et c'est devenu un peu l'hymne international des musiciens amateurs.
Learn to Fly des Foo Fighters, la chanson fétiche donc de Philippe Manœuvre, elle figure, Aline, sur l'album There is Nothing Here Left to Lose, qui est sorti en 1989.
Il n'y a plus rien ici à perdre, toute une philosophie qui correspond bien à la rock'n'roll attitude de Philippe Manœuvre.
Qui ne refuse jamais une nouvelle occasion d'apprendre, n'est-ce pas Aline ?
On vient de vous appeler, j'étais là, j'ai assisté à cet appel du compte de formation, vous pourriez utiliser vos points pour faire une formation ? Quel instrument vous aimeriez jouer ?
Moi, j'aime bien la guitare. J'aime bien la guitare parce que la guitare, c'est l'instrument roi du rock. Ouais. Vraiment, c'est l'instrument par lequel Jimi Hendrix a donné la vie à ces milliers de guitaristes qui essayent de reproduire son toucher, son intuition, ses fulgurances. Voilà. Les Foo Fighters, c'est vraiment une aventure, une épopée que moi, je suis avec un intérêt incroyable parce que je me dis, voilà... Par exemple, quand ces gens du Rockin' Mill se sont réunis pour jouer leurs chansons, tout de suite, la réponse de Dave Grohl en 24 heures, c'est on arrive. Ouais. C'est ça un groupe de rock positif. Ils seraient réunis pour faire une chanson des groupes du passé, des grands groupes, les Who, les Zeppelin, les Rolling Stones. Est-ce qu'il y aurait une réponse? Est-ce que même ça aurait été enregistré? Alors que là, il y a à la fois, c'est une victoire internet et puis c'est une victoire de Dave Grohl qui dit, moi, je veux qu'il se passe des choses autour de mon groupe et je ferai tout. Donc, c'est ça que je trouve intéressant avec cette chanson. Voilà, on a un grand plaisir à la jouer. On l'a jouée au mois de juin 2019 et c'est une merveille.
Ça va être le feu.
Continuons, les amis, car le rock, maintenant, il repose sur nos épaules aussi. Et c'est à nous de continuer à le défendre et surtout à le faire vivre. Car une musique n'est pas faite de chair et de sang, Aline. Vous voyez, une musique ne peut pas mourir. Elle peut pas avoir le Covid. Elle peut pas disparaître en 5 jours, là, en Colombie, le matin. Oups, là, voilà. La musique, elle reste. Il y a encore des clubs de polka aux États-Unis. Donc, moi, ma théorie, c'est le rock restera fort tant qu'il y a des gens qui le joueront.
Learn to Fly des Foo Fighters, raconté par Philippe Manœuvre. Rockin' Mill revient donc au Stade de France le 14 mai 2022 avec en invité Mathieu Chédid.
Et Philippe Manœuvre sera à nouveau le maître de cérémonie de cette aventure incroyable. Il rendra hommage à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters qui nous a quittés à l'âge de 50 ans le 25 mars dernier.
Le feuilleton une semaine dans la vie des Dark Kitchen, les cuisines fantômes en français, aussi discrètes que nombreuses dans les villes et où se préparent les repas à emporter pour les plateformes de livraison. Sarah Guibaudot est allée chez Food Lab, qui regroupe 17 de ces cuisines à Lyon. Il y en a pour tous les goûts, du burger au sushi, en passant par la cuisine italienne. Cuisine italienne, c'est le menu du jour, avec l'interlocuteur de Sarah. Quel est l'intérêt pour ces restaurateurs de s'installer dans une cuisine fantôme plutôt que dans un restaurant classique?
En fait, nous, du coup, on fait tout maison. C'est la volonté aussi, nous, de rester dans la tradition italienne et de faire vraiment les pâtes à la poêle, au dernier moment, avec la sauce.
Vous avez une formation de cuisinier?
Alors, moi, personnellement, pas du tout. Mon associé, il a fait 3 ans avant chez un restaurant de burgers à Lyon. Et en fait, nous, on a eu le goût de la cuisine depuis l'adolescence ensemble. Et on a fait beaucoup de réceptions privées. Moi, je suis Jeff Bussière, j'ai 27 ans. On a créé Foodzy en septembre 2020. Donc c'est vrai qu'on a eu un peu un concours de circonstances entre Valentin et moi-même qui avons quitté notre travail après 3 ans en se disant on se lance dans un projet commun, tentons une nouvelle aventure. Et ensuite il y a eu toute cette histoire de confinement, de crise sanitaire. C'est vrai que ça nous a boosté pour le lancement et ça nous a conforté dans cette idée de se dire c'est le bon moment pour faire ça.
Comment ça marche là? Vous avez des tablettes?
C'est ça, alors en fait on a différentes tablettes. On a une tablette par plateforme et par marque. Donc du coup ça commence à faire pas mal de tablettes. Les clients passent commande via les plateformes. Donc là c'est une commande Deliveroo.
Ah bah, y a deux commandes en même temps.
Donc là c'est une commande Uber Eats, on voit que ça n'a pas fait le même bruit. Et ensuite je vais lancer les fourneaux.
Et c'est pratique pour faire la cuisine, le format Dark Kitchen?
Moi je trouve beaucoup parce que c'est vrai qu'à la différence du surplace on n'a pas à gérer une salle. C'est des contraintes qui sont différentes, puisqu'on a des livreurs à gérer en contrepartie, les tickets, les commandes. La préparation et l'envoi, ça fait pas du tout pareil. Là, ça va être bon, on voit que le miel, il commence à colorer. Et on va l'intégrer à la sauce tomate.
Aujourd'hui, est-ce que la Dark Kitchen, c'est plus facile pour se lancer, pour monter son entreprise en restauration?
En partant sur un format de Dark Kitchen, on n'a pas à racheter un bail et un fonds de commerce. Il y avait un droit d'entrée qui était très faible.
Le droit d'entrée, c'est 5000 euros quand même, c'est ça? Ouais, après, c'est vous ça. Payez un loyer?
C'est ça, tout à fait. Mais en comparaison, à local équivalent, on était sur des fonds de commerce qui étaient entre 60 000 et 100 000 euros. Donc il y avait ce premier aspect-là, l'aspect financier. Après, il y avait l'aspect sur la Dark Kitchen de pouvoir se faire connaître rapidement via les plateformes de livraison. On est visible sur une plateforme qui accueille des milliers de personnes chaque jour et qui est déjà connue des gens. Et du coup, ça minimise le risque de devoir embaucher directement 3 personnes en salle, un commis, un plongeur. Alors que là, on pouvait vraiment lancer la chose de notre côté, se dire, OK, on se laisse 1 an, on travaille tout ce qu'il faut à faire des semaines de 80 heures, etc. Mais bon, ça fait partie du projet, on le savait.
Alors la viande,
On essaie de la faire vraiment au dernier moment. Comme ça, on garde la fraîcheur des œufs. On les fait minute. On en met un peu dans l'organisation.
Alors, où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, donc ici, on est à Vaise, on est dans le deuxième établissement. Depuis 2-3 mois, on a 2 employés maintenant. C'est vrai qu'on a eu une première année qui est vraiment exceptionnelle.
Bonjour, je suis à 94.
Et devant nous, donc, le livreur qui attend.
Super rapide.
Vous allez livrer où, ça ?
30 km. Merci. Allez, au revoir.
Sur les livreurs, il y a un peu deux écoles. Il y a un peu ceux qui sont très sociables, puis qui viennent souvent, et puis qu'on a l'habitude de voir, et maintenant, on commence à connaître. Et puis, il y en a qui sont plus dans, on va dire, l'optimisation. Ce qu'on peut comprendre, parce que pour eux, le temps, c'est vraiment de l'argent, comme ils sont payés à la commande.
Est-ce que ça veut dire que les habitudes de consommation des gens ont vraiment durablement changé ?
Ouais, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, effectivement, où les gens ont pris l'habitude de commander, et on le voit à la réouverture des terrasses, à la réouverture des restaurants, on s'attendait à une baisse d'activité dans notre établissement, ce qui n'a pas du tout été le cas. Oh, vous n'avez pas l'odeur avec le micro, mais...
mais ça sent bon.
Voilà, une semaine dans les cuisines fantômes de Lyon. Reportage Sarah Guibaudeau, réalisation Théo Raison et Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, le nouvel archevêque de Paris s'appelle donc Laurent Ulrich. Le pape vient de le nommer après consultation et accord avec le président de la République.
Et le Figaro l'annonçait dès la semaine dernière. Alors le journal était bien informé. Était-il en revanche bien intentionné quand il s'alarmait ? Mais cette nomination ne devrait pas intervenir officiellement, disait-il, avant le second tour de la présidentielle. Le choix de monsieur Ulrich, réputé progressiste, monsieur de Paris, vous savez, comme on disait autrefois, risquait d'être mal compris, expliquait le Figaro, au moment où le vote du petit reste des catholiques pratiquants a bondi vers l'extrême droite. Et puis, c'est un choix, ajoutait le journal, qu'il faut attribuer aussi à Emmanuel Macron. Le pape et lui, décidément, n'aiment pas les nationalistes.
Voilà pour le Figaro, vu par l'ancien de la Croix. Il est difficile, Jean, à l'archevêque de Paris, de se tenir éloigné du pouvoir politique.
Excellent livre, issu d'un collectif d'historiens. Il vient de paraître chez Belin. Il est consacré à Notre-Dame, cathédrale dans la ville, mais avec le temps devenu sanctuaire national. Guillaume Cuchet y propose une excellente formule. La cathédrale, c'est la paroisse de l'histoire de France. Donc l'archevêque, c'est le curé de l'histoire de France. La Notre-Dame gothique, c'est la 4e ou la 5e construction édifiée sur l'île de la Cité, a été établie quand le roi capétien Philippe Auguste a fait de Paris sa capitale. Progressivement, la scénographie des cérémonies s'y est organisée autour des statues des rois. Et à partir du XVIIe siècle, les Tédéum s'y sont multipliés pour célébrer les grands événements qui concernent le pays.
Et il faut la Révolution française pour que la cathédrale n'en soit plus le lieu naturel.
14 juillet 1790, pour la fête de la Fédération, c'est déjà le champ de Mars qui est choisi pour tenter de figurer l'unité du pays. 1791, le clergé est révolutionné par la constitution civile adoptée par les députés sans concertation avec le pape. Ses membres doivent prêter un serment que l'archevêque de Paris refuse, un évêque constitutionnel est élu, et ensuite la déchristianisation va lui faire déposer ses lettres de prêtrise en même temps que seront abattues les statues des rois dans la cathédrale. La nef devient un entrepôt de vin pour les armées. Mais enfin, pas uniquement. Hein. Une association de chrétiens adhérents à la constitution civile récupère une partie des clés de l'édifice et il faut imaginer qu'à partir de 1795, on y célèbre à la fois la messe catholique, le culte théophilanthropique, c'est une secte issue des Jacobins, et les décadis, le substitut du dimanche, le décadis, dans le calendrier révolutionnaire. Par ailleurs, les barriques demeurent. Pour parler en latin, Notre-Dame est devenue un simultanéum, un peu comme les maisons du peuple pour tous les syndicats, vous voyez.
Notre-Dame est plutôt le lieu naturel d'une sorte de religion civile française.
Oui, alors ça, c'est une expression qui vient aussi de Guillaume Cuchet. Alors, il y a eu des moments difficiles, 1831, après la Révolution, une autre révolution, les confitures et les livres de l'archevêque de Paris jetés dans la Seine en même temps que son palais est brûlé. Je ne parle pas de la commune de 1871, mais enfin, la tradition dominante dominante qui va s'imposer, c'est celle de cette religion civile. L'organisation des cérémonies de deuil d'après 1918 y est pour beaucoup. La Grande Guerre avait réintégré les catholiques dans le corps national après la crise de la séparation. Alors les Tédéums, toujours, les obsèques de maréchaux se sont succédés à un rythme soutenu devant de plus en plus d'autorités civiles et militaires. Bon, alors il y a l'épisode de Vichy, le cardinal Suard, archevêque de l'occupation, avait accueilli dans la cathédrale le maréchal Pétain en juillet 44, le catafalque de Philippe Henriot, collaborationniste exécuté par la résistance. Au mois de juillet, c'en était trop pour les représentants catholiques de celle-ci. Suard avait été prié de rester dans ses appartements quand était entonné le Magnificat de la Libération. Mais dès le 9 mai 45, eh ben, tout le monde s'est réconcilié et c'est Suard qui a présidé le Tédéum de la victoire. Guillaume Couchet dit, il faut revenir au latin, monere, hein, ce qui fait penser, aïeux, padres, Notre-Dame, patrimoine.
Bon, et le prochain Tédéum, c'est quand?
Bah, 2024, pour les Jeux Olympiques, par exemple. Non, faut être sérieux. C'est pour la réouverture de la première partie de Notre-Dame. Monseigneur Ulrich sera en compagnie d'Emmanuel Macron. Il va s'intéresser plus que son prédécesseur au chantier. D'autant qu'il a intérêt à ce qu'il soit accéléré, parce que lui, il va prendre sa retraite à 75 ans, c'est obligatoire, dès 2026.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire et chez Belin, ce livre Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, sous la direction de Boris Bove et Claude Govard. Dans un instant, le flash de 14h.